Après cette composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna, nous reprenons l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV et qui précise comment les Palestiniens résistent pour leur survie à Gaza.
Pour affronter l'injustice de l'ordre colonial, partout où ils résistent par tous les moyens nécessaires, y compris dans ce travail que font les journalistes, les soignants, les soignantes dans les hôpitaux, ces pères et mères de famille qui accueillent des orphelins. Tout cela, c'est la résistance palestinienne qui nous unit et qui nous oblige. Et donc, pour être plus efficace, effectivement, je pense qu'il faut venir puiser à cet endroit. Et c'est des messages qui nous viennent, encore une fois, de Gaza, mais aussi de ces prisons où les prisonniers nous disent. C'est dans la lecture du Coran, c'est dans ces litanies, c'est dans ces pratiques collectives que, malgré la torture, ils arrivent à tenir bon et à garder le cap de la lutte de libération.
Vous l'avez un peu abordé, vous avez fait un panorama des moyens de lutte. J'aimerais vous poser une question assez claire et concrète. Aujourd'hui, les populations en Europe qui voudraient aider le peuple palestinien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et qu'est-ce que fait Urgence Palestine en parallèle de ça?
Urgence Palestine, c'est un outil de lutte politique. Et donc, si on doit lutter par tous les moyens nécessaires, en Europe, en France, notre vision en tant que Palestiniens en lutte pour la libération de notre terre et de notre peuple, c'est qu'il faut aujourd'hui être les ambassadeurs, ambassadrices de la résistance palestinienne légitime, telle qu'elle est aujourd'hui sur le terrain. Et donc, notre travail politique, il exige d'abord de mobiliser, de faire passer notre message, d'organiser des manifestations, des événements, des conférences, des projections de films dans les universités, dans les quartiers, et donc d'occuper le terrain pour que notre vision politique, notre narration, notre histoire soit racontée par nous-mêmes, par le maximum de monde possible. Et ça doit se traduire ensuite par une capacité à peser politiquement. Et donc peser politiquement, ça veut dire rappeler à l'ordre ceux qui ont du pouvoir, quelle qu'en soit la forme, quand il dévie de cette narration, de cette exigence de vérité et de justice qui est la nôtre. Quand la résistance du peuple palestinien est qualifiée de terroriste, on a un devoir d'intervention. Quand il y a génocide en totale impunité, nous avons un devoir d'intervention. Et ça se traduit par exemple par les appels au boycott des organisations, entreprises et personnes complices du génocide. Et là, on parle bien sûr de Carrefour, mais aussi de ces salles de spectacle qui accueillent des promoteurs israéliens du génocide et de cette armée coloniale. Cette lutte, c'est aussi une lutte qui va se traduire en plus du boycott dans le domaine juridique. On est la première organisation qui a obtenu d'ouvrir une brèche dans ce mur d'impunité dont bénéficiaient les génocidaires sionistes. Par notre travail collectif, on a pu obtenir que Nelly Kupfer et d'autres promotrices de ce génocide se retrouvent non seulement avec des poursuites pour génocide ou complicité de génocide, mais aussi avec des perquisitions et des ouvertures d'enquête par le parquet national antiterroriste contre ces personnalités sionistes. C'est pas complètement anodin. On pourrait lister ainsi les victoires de notre mobilisation qui articulent le populaire, le politique, le juridique et le médiatique, mais quand on dit par tous les moyens nécessaires, c'est notamment à cet endroit-là qu'on situe notre action. Après, il y a aussi tout le travail qui est aussi extraordinairement important autour de l'information, autour de la propagation des contenus qui viennent de Palestine, qui sont forgés au péril de leur vie par les journalistes palestiniens palestiniennes. Et encore une fois, il me semble important de se défaire de ces frontières qui ont été créées par les découpages coloniaux, Sykes-Picot. Quand je parle de la Palestine, en réalité, je parle d'une lutte contre le sionisme qui se joue aujourd'hui au Liban et dans toute la région. Enfin, pour ce qui est de nos moyens de lutte ici, il y a aussi tous ces enjeux sur le travail social, éducatif, sur l'accueil des rescapés du génocide, sur ce travail nécessaire qui se fait aussi à l'échelle très très locale pour faire en sorte que les municipalités deviennent des alliés de la cause palestinienne plutôt que des participantes au génocide et au régime colonial. Donc tout ça, en fait, c'est une lutte qui se joue dans énormément de cadres. Il y a une très belle diversité aujourd'hui. On voit des organisations étudiantes, des organisations de quartier qui émergent. Et en même temps, on espère avoir créé une adresse collective, Urgence Palestine. C'est un endroit où on peut accumuler nos moyens, mettre en commun nos ressources de façon à être plus efficace et plus précis. Le but, c'est de mettre toute notre pression et toute notre force de façon à faire céder ces barrages qui nous empêchent d'exprimer notre aspiration à la justice et à l'indépendance, et en même temps qui garantissent l'impunité aux colons et aux génocidaires. Et un des aspects essentiels de la lutte, c'est le moment où on arrivera à mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en France, en Europe, et à l'endroit qui, on peut parler longuement des complicités arabes, du soutien américain, mais en fait, l'Europe est un des aspects absolument essentiels de la bataille. Dans notre géographie politique, il faut savoir que l'Europe est l'arrière-pays d'Israël. C'est parce que les Israéliens jouent au foot en Europe, qu'ils viennent faire des études ici, que le tourisme leur est facilité sans visa. Personne ne demande aux frontières espagnoles ou françaises, aux Israéliens, où est-ce qu'ils habitent, dans une colonie, est-ce que et dans quelle unité ils ont servi, à quel moment. Il faut savoir que tous les Israéliens sont des réservistes de l'armée génocidaire. Et donc, si on arrive à défaire cette complicité de l'Europe, qui est aussi le premier marché pour les Israéliens, on aura réussi. Et donc, c'est alors 40 milliards pour les exportations israéliennes, mais en fait, c'est aussi derrière beaucoup de contrats indirects, c'est aussi ces exportations et importations d'armes, de technologies de surveillance. Et donc, c'est des dizaines de milliards cumulés pour des projets de recherche financés par le contribuable européen qui bénéficient à ces universités et autres laboratoires israéliens qui, aujourd'hui, sont les lieux où s'élaborent ces technologies et ces doctrines de la mort qui s'appliquent sur le champ de bataille, sur le corps des enfants du peuple palestinien en général. Donc tout ça, effectivement, c'est l'endroit d'une complicité qu'il s'agit de déraciner. Finalement, la genèse du projet colonial sioniste, elle se trouve entre Paris, Londres et Berlin, et c'est donc ici qu'on a aussi le pouvoir d'agir. Je le dis avec beaucoup de gravité aussi au moment où ces flottilles courageuses s'élancent encore une fois pour affronter le blocus de Gaza. Tout le monde se pose la question, où est la clé de Rafah? Comment faire en sorte que ces camions arrêtent de pourrir dans le désert alors que les gens sont affamés dans la bande de Gaza? Je pense aujourd'hui que la clé de Gaza, elle se trouve entre Paris et Bruxelles. Si on arrive à infliger ces sanctions à Israël, on aura sans doute la possibilité d'ouvrir les portes de Rafah et de faciliter la vie aujourd'hui de celles et ceux qui se battent pour notre dignité à toutes et tous à Gaza et dans le reste de la Palestine.
Vous qui avez étudié en tant qu'Urgence Palestine ce dossier précisément, on voit que c'est l'Allemagne qui bloque avec son veto, qui a des intérêts économiques en Israël, qui, il me semble, vend des armements, et qui, d'un point de vue historique, se sent aussi coupable par rapport au génocide qu'elle a commis envers les Juifs. Comment agir pour que l'Allemagne change de point de vue? Parce que c'est l'un des principaux vetos qui bloque, qui perpétue cet accord.
Moi, on peut le qualifier d'accord de la honte. En tant qu'acteur politique, moi, je le fais sans problème. Aujourd'hui, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël est une tache dans l'histoire de l'Europe, mais c'est une tache parmi d'autres. Je veux dire, on parle d'une Europe qui a colonisé, massacré et commis les pires exactions, y compris en soutenant aujourd'hui des dictatures corrompues partout, notamment dans nos pays. Cela étant dit, comment est-ce qu'on analyse l'évolution du rapport de force? Première chose très importante. Il y avait un consensus européen à l'exception de la Hongrie. Orban est tombé. Et aujourd'hui, ce consensus minimaliste qui était accepté, y compris par les dirigeants allemands, c'était celui d'infliger des sanctions contre les colons et les organisations de colons en Cisjordanie. C'est bien sûr beaucoup moins que ce qu'on est en droit d'exiger. Mais ce verrou semble avoir maintenant pris fin, et donc on peut s'attendre à quelques mesurettes qui, en effet, sont insuffisantes, mais qui peuvent s'appliquer, y compris avec un accord des autorités allemandes. Il y a une autre chose très importante à savoir, c'est que si l'Union européenne à cause d'un veto allemand ou autre, n'évolue pas dans sa position, les États ont la responsabilité d'agir. Et la France, par exemple, a mis le levier pour instaurer un contrôle sur l'entrée des touristes israéliens, pour mettre fin, par exemple, à ces accords qui permettent aux soldats franco-israéliens de participer impunément au génocide. Il y a des accords bilatéraux, notamment par exemple entre des universités françaises et israéliennes. On a attaqué d'ailleurs les universités françaises et le ministère de l'enseignement supérieur pour complicité de génocide parce qu'ils ont refusé jusqu'à présent de rompre ces relations de partenariat.
Vous parliez des soldats israéliens, franco-israéliens, il me semble qu'ils sont 6 000, c'est ça, d'avoir participé au génocide ?
Oui, le premier chiffre qui était sorti, c'était 4 000, et en fait, il semblerait qu'ils sont plutôt de l'ordre de 6 000. Ça, c'est la masse des réservistes franco-israéliens qui ont participé ces deux dernières années aux opérations génocidaires de l'armée coloniale. Et donc, effectivement, toutes ces personnes tombent sous le coup de la loi, et a fortiori, celles qui ont directement participé aux opérations de combat à Gaza, mais aussi au Liban, en Cisjordanie et ailleurs. Et donc, ces criminels de guerre patentés, jusqu'à aujourd'hui, ont une relative impunité, mais je l'ai dit un peu plus tôt, cette brèche de l'impunité, elle s'est ouverte. À partir du moment où le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour crime de génocide et complicité de génocide, il faut le dire, c'est une enquête contre X. Donc les procureurs et les autorités judiciaires qui travaillent sur ces dossiers ont vocation à s'intéresser au-delà de Nili Kupfer et de ses actions qui visaient à bloquer les camions d'aide arrivant à Gaza. En fait, il y a ces milliers de soldats français qui ont raison de s'inquiéter parce qu'effectivement, la justice arrive à leur trousse. On va continuer de pousser, on doit continuer de s'organiser. Et c'est la raison pour laquelle aussi Urgence Palestine lance une campagne de collecte de fonds, une souscription. Il faut donner de la force à Urgence Palestine et à toutes les organisations qui sont engagées sur ce plan. C'est aujourd'hui la façon pour nous de prendre notre part. On n'est pas impuissant. Ils essayent de construire notre impuissance, mais en réalité, on est en train de trouver les failles et les brèches qui nous permettent d'agir collectivement avec efficacité, en rejoignant les organisations ou au minimum en leur donnant de la force et en propageant ces appels à nous soutenir.
Vous parliez des leviers dont disposerait l'État français pour changer de politique envers l'État israélien. Est-ce qu'il y en avait d'autres, de ceux que vous avez abordés ?
En fait, il y a une infinité de leviers. On pourrait citer, par exemple, aussi toutes ces collaborations, ces jumelages qui existent entre des villes françaises et des villes israéliennes. Parmi ces accords de coopération, il y a ceux, par exemple, de Marseille avec Haïfa, qui est un port stratégique qui est absolument central dans ce projet géostratégique qui rassemble, après les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël, pour finalement abreuver l'Europe qui a soif d'hydrocarbures et de biens de consommation, de ces hydrocarbures qui viennent de notre partie du monde et de ces biens de consommation qui viennent notamment d'Asie. Et dans ce dispositif, le port de Haïfa a une place absolument centrale comme terminal portuaire, gazier et pour les biens de consommation, pour le transport de marchandises. Le port de Haïfa a vocation, avec cette connexion au port de Marseille, d'être une pièce absolument centrale de ce dispositif impérialiste et colonial. Et donc la ville de Marseille, par exemple, si elle mettait fin au jumelage avec Haïfa, ce serait un message extraordinairement fort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gauche qui prétendument dirige à Marseille est totalement sourde aux arguments de notre mobilisation contre ce jumelage. Par ailleurs, on sait qu'il y a des intérêts évidents, notamment de Rodolphe Saadé, ce copain de Macron, qui est aujourd'hui un des magnats de la ville de Marseille et qui dirige cette compagnie maritime qui lui a permis aujourd'hui d'être une des plus grandes fortunes de ce pays.
Donc, CMA-CGM, et il est aussi le président de BFM.
Exactement. Donc on voit aussi tous ces intérêts très concrets qui existent entre le complexe militaro-industriel israélien, des compagnies capitalistes.
Et pourtant, il est libanais.
En fait, être libanais, ou palestinien n'empêche pas d'être un carnassier qui a soif de profit et qui est prêt en réalité à accepter le massacre de son peuple en échange de promesses de profit. Et donc c'est assez terrible, mais en réalité il y a, on le voit dans notre région aujourd'hui, toute une série de ce qu'on appelle les classes compradors dans les théories marxistes, c'est-à-dire des intermédiaires du colonialisme qui tirent un intérêt direct de la domination coloniale et impériale. Et donc aujourd'hui, les pouvoirs arabes et les capitalistes arabes sont tentés en fait par ces promesses de profit en milliards qui sont faites dans la foulée des accords d'Abraham et dans la foulée de l'acceptation en fait de la domination israélo-américaine sur notre région. Et donc aujourd'hui, c'est ces milliardaires-là en fait qui promeuvent la liquidation de nos résistances populaires contre l'impérialisme, parce que pour eux, résister ne rime à rien, et au contraire, collaborer, c'est des promesses de profit en milliards, même si ça veut dire renoncer à notre dignité, et même si ça veut dire se montrer complice du génocide des peuples de la région. Donc c'est terrible, mais c'est pas une nouveauté quand on se réfère à l'histoire longue de nos peuples. Il y a eu des intermédiaires en Afrique, dans l'esclavage et dans la traite triangulaire. Il y a eu des harkis et des régimes qui ont finalement tiré profit de la domination coloniale. Et c'est cette longue histoire, hélas, qui se continue. Mais ce qui continue aussi, c'est l'histoire de notre résistance et notre capacité à nourrir par notre conscience historique notre compréhension des phénomènes contemporains.
Vous venez d'entendre l'entretien que le militant d'urgence palestinienne Omar Al-Soumi a accordé à la chaîne YouTube Mizan TV à l'occasion de la sortie de son livre « Enfants de Gaza ». Alors bien sûr que nous remercions la chaîne Mizan TV d'avoir organisé un tel entretien. Omar Al-Soumi a raconté d'ailleurs comment le gouvernement français, qui fait tout pour continuer à soutenir le gouvernement israélien malgré les actions génocidaires de son armée à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban, et ce gouvernement qui fait tout aussi pour empêcher tout soutien au peuple palestinien en interdisant des manifestations de soutien et en dénonçant les membres de la flottille pour Gaza, le gouvernement donc français avait demandé l'interdiction de l'association Urgence Palestine créée par Omar El-Soumi. Et c'est d'ailleurs ce que raconte Omar El-Soumi sur la chaîne Orient 21, cette chaîne que vous connaissez bien, qui a été créée par Alain Grech. Il le fait le 28 mars 2026. Et je vais vous faire entendre ce contenu de son article, qui est lu d'ailleurs par une correspondante d'Orient 21.
Omar Al-Soumi est cofondateur et porte-parole du collectif français Urgence Palestine sous le coup d'une menace de dissolution. Dans Enfants de Palestine, en librairie le 28 janvier, il raconte son histoire et celle de sa famille palestinienne, ses engagements, notamment pour l'écologie et pour les droits de son peuple. Dans l'extrait que publie Orient 21, il revient sur la répression qui frappe ceux qui luttent pour la libération de la Palestine. Le 6 mai 2026, il sera jugé pour apologie du terrorisme. Un vendredi soir de la fin mai 2025, en sortant du parking où j'égarais ma Dacia familiale, ma carte bancaire est rejetée lorsque je veux régler. Je tente avec celle de mon conjoint, idem. Je consulte l'application du Crédit Agricole, elle est inaccessible. Je crois à un piratage de mon compte, mais cela n'explique pas que ma carte bancaire de la banque postale soit également rejetée. J'en déduis que c'est l'automate du parking qui est défaillant. Je me rends le lendemain à la première heure à un guichet du Crédit Agricole où le jeune employé m'informe qu'un problème est survenu sur mon compte. Le directeur de la banque m'indique qu'il s'agit d'un problème relevant du siège qui ne répondra pas avant le mardi suivant. Je vais à la banque postale où est ouvert notre compte joint. La guichetière se montre beaucoup plus directe. Elle me désigne son écran sur lequel figure un gros encadré rouge. Votre client fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs. Aucune opération ne peut être effectuée. Un acharnement stupide et dérisoire. J'appelle mon avocate, qui effectue une recherche rapide et me confirme, un décret a été publié dans la nuit. Il stipule « Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à sont possédés détenu ou contrôlé par M. Omar Somi, alias M. Omar Ael Soumi, né le 29 octobre 1981 dans le 14e arrondissement de Paris, 75, dirigeant du groupement de fait Urgence Palestine, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par M. Omar Somi, alias M. Omar Ael Soumi, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois à compter de la publication du présent extrait au Journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toutes autres entités qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Ouf ! Ce charabia est l'eau. Je le trouve drôle. Je suis un peu sonné, mais je prends ces nouvelles avec le sourire. Cet acharnement est stupide et dérisoire. Stupide, car rien ne nous fait peur depuis que nous avons vu, jour après jour, des enfants calcinés dans les bras de leurs parents en pleurs. Comment pourrions-nous encore avoir peur ? Dérisoire, car le gel des avoirs dont il est question concerne mon compte personnel au Crédit Agricole avec un montant créditeur de 0,40 euros et mon compte joint débiteur en cette fin de mois de père de famille nombreuse. Toutefois, dans la société où nous vivons, ne pas pouvoir utiliser de carte bancaire s'apparente à ne pas posséder de carte d'identité. Un casse-tête et un handicap lourd. Pour percevoir mon salaire, j'ai dû écrire à la Direction Générale du Trésor afin qu'elle en autorise la réception par ma banque. Tous les mouvements sur mon compte sont bloqués sauf ceux autorisés expressément par les agents du ministère de l'Économie et des Finances. Je suis comme sous curatelle. Les voies de recours juridiques sont vaines. La loi est très claire, le ministère de l'Intérieur peut sans jugement ni justification geler les avoirs de toute personne ou organisation. Motif, lutte antiterroriste. Le fait que je fasse partie des dirigeants d'urgence Palestine suffit à mobiliser une loi antiterroriste pour priver ma famille de ses moyens de subsistance et nous mettre sous des restrictions ultra sévères. Dès le début, le ministre de l'Intérieur a voulu inscrire la dissolution d'urgence Palestine dans la lutte contre ce qu'il appelle l'entrisme des frères musulmans. J'ai souvent travaillé avec des personnes proches ou issues de cette mouvance. Je les plains pour toute la violence qu'elles subissent. Torturées à mort en Égypte alors que leur mouvement a gagné les seules élections démocratiques du pays, étranglées en France malgré tous les compromis réalisés. Leurs réseaux sont en total retrait de la mobilisation actuelle, contrairement à 2009, quand nous avons connu les plus importantes manifestations pour la Palestine de l'histoire du pays. Et en l'occurrence, Urgence Palestine, qui accueille cordialement toutes les forces qui partagent sa plateforme politique et ses valeurs, ne compte pas dans ses rangs de représentants de cette tendance parmi d'autres de l'espace social et politique musulman. Ce sont les Émiratis qui, dans le monde arabe, sont devenus les fers de lance de la lutte contre les frères musulmans. On ne peut exclure que leur action ait influé sur le candidat potentiel Retailleau. Ce qui est sûr, c'est que le lobby pro-israélien El Ney est à l'initiative du meeting pour la République, la France contre l'islamisme, durant lequel, quelques semaines avant l'attentat islamophobe de la Grand Combe, le ministre de l'Intérieur a proclamé « Abat le voile !» tandis qu'une autre intervenante appelait à s'armer physiquement. Ces propos ne sont-ils pas une incitation à la haine et à la violence contre les musulmanes et les musulmans ? La réponse ne fait pour moi aucun doute. Quand la police débarque. 5 novembre 2025. Je me suis réveillée vers 5h30, c'est encore un peu tôt pour la prière de l'aube. J'ai regardé d'un œil endormi les nouvelles sur mon téléphone. Orhan Mamdani a gagné les élections à New York. Voilà une nouvelle qui fait plaisir. Je somnole encore quand des coups violents font trembler la maison familiale. Il est 6h09. J'ai tellement de chance, je suis plein de gratitude. J'ai une famille que j'aime, une épouse belle, forte et brillante, des enfants vifs et curieux. Nous habitons une maison avec un grand jardin à l'entrée du domaine naturel où nous avons notre ferme. Ma vie est celle d'un grand privilégié. Ce n'est pas parce que je m'ennuie ou que mon esprit est troublé que je milite contre le sionisme et le colonialisme pour la libération de la Palestine. C'est parce que c'est ainsi que je conçois la responsabilité de notre génération. Quand la police débarque à la maison, je ne ressens pas une once de peur, mais fais preuve d'une attention lucide autant que faire se peut. Protéger notre intimité, veiller à la sécurité de nos enfants, préserver la dignité de notre foyer. Nous étions préparés à ce risque. Nous en avions beaucoup parlé avec mon épouse et les enfants après les vagues répressives du printemps qui annonçaient l'intention du gouvernement de dissoudre Urgence Palestine. Les forces de l'ordre étaient déjà venues à 15, en mon absence, de nuit, terrorisant ma famille. C'était juste avant que mes comptes ne soient gelés. Perquisition, garde à vue, assombrissent depuis longtemps le quotidien de nos luttes antiracistes et anticoloniales et de plus en plus celui des luttes sociales et écologistes. Près de 500 personnes ont avant moi subi la violence d'être accusées d'apologie du terrorisme par le pouvoir français aligné sur son allié israélien. Dès le 10 octobre 2023, une circulaire du ministre de la Justice appelait les procureurs à une réponse pénale ferme et rapide à l'apologie du terrorisme qu'il définissait comme la tenue publique de propos vantant les attaques du 7 octobre 2023, en les présentant comme une légitime résistance à Israël. Nous étions prévenus. Nous avons passé ces 2 années de lutte à trouver les mots qui nous permettraient de défendre la légitimité de la résistance anticoloniale sans donner au gouvernement les moyens de nous écraser à bon compte. Notre collectif Urgence Palestine, fondé après le 7 octobre 2023, n'a pas pris position sur les événements des premiers jours suivant le début de cette bataille du déluge d'Al-Aqsa. Par-delà les actions militaires de ces jours pleins de brouillard de guerre et de propagande, subsiste une incompréhension entre l'espace occidental et l'espace arabe qu'il convient de lever. Ce qu'on appelle la bataille du déluge d'Al-Aqsa dans le monde arabe, c'est l'ensemble de cette période de 2 ans. Le déluge d'Al-Aqsa inclut ces longs mois de guerre génocidaire visant à détruire la résistance palestinienne et sa base sociale, cette lutte farouche de tout un peuple pour déjouer les plans de la machine de guerre coloniale et cette mobilisation sans frontières pour la libération de la Palestine. Dès les premiers instants de la perquisition, mon jeune fils a pu rejoindre mes filles à l'étage sans être trop exposé à la brutalité des allées et venues de cette brigade armée dans notre foyer. La perquisition n'a pas trop duré, mon téléphone a été saisi avant d'être mis sous scellé. Comme mon ordinateur, et avec lui la version originale du manuscrit de ce livre, balancé dans l'armoire du commissariat en attendant mon jugement. Ce matin nous offre un somptueux lever de soleil sur le chemin du cachot. Si on jauge une civilisation à l'aune de ses prisons, alors la France croupit dans un crépuscule délabré et puant. Nous sommes jusqu'à 5 dans une cellule qui compte 4 maigres matelas à même le béton et 3 couvertures usagées. Les toilettes débordent d'une nuée pestilentielle, collante et âcre. Ce commissariat est fait pour humilier. Comme la répression vise à faire peur et douter. J'oscille entre gravité et détachement amusé. Ce n'est pas juste et c'est violent ce que ma famille, mes camarades et moi subissons. Cependant, il est dérisoire et ridicule que la France s'en prenne de façon aussi grossière à des personnes qui ne font que défendre le droit d'un peuple à vivre libre sur sa terre. Nous faisons face à une oppression inacceptable. Néanmoins, ce n'est rien par rapport au sacrifice des résistants qui sont nos références. Nous sommes en France. En Palestine occupée, dans les geôles coloniales, nos frères et sœurs détenus le sont sans procès, sans avocat, soumis à la torture, aux pires sévices et privations. Le Parlement israélien s'apprête à voter un texte de loi permettant d'infliger la peine de mort aux prisonniers palestiniens. Avant même cela, depuis le 7 octobre 2023, plus de 80 prisonniers sont tombés en martyrs en détention. Chacun a un nom, une histoire, une famille. C'est sans doute d'eux dont il faudrait parler ici. Toutefois, beaucoup ont besoin de figures d'identification plus proches pour se sentir concernés, alors j'essaie de faire le trait d'union entre toutes ces histoires. Nous sommes ici de petits résistants élevés par les grands résistants qui sont là-bas. En France, je suis avec des prévenus de droit commun. Des personnes qui, selon les cas, ont braqué, cambriolé, conduit en état d'ivresse, trafiqué de la cocaïne ou sont sans papier. Il y a une femme aussi, dans une cellule solo dans notre aile mixte. Elle a mis un coup de couteau à son compagnon violent. Je préfère citer Jésus. Une expertise psychiatrique a été exigée avant de m'envoyer au tribunal. Je ne suis pas fou, plutôt mature et raisonnable même, à en croire le médecin d'origine roumaine qui a fui la dictature quelques décennies avant d'être réquisitionné pour m'examiner. Il me parle de Gandhi et de Soescu. Je ne lui parle ni de Macron ni de Retailleau. Je préfère citer Jésus, Issa, le plus illustre des enfants de Palestine. Voilà une heure plutôt plaisante parmi celles passées au trou. Lors des auditions, j'ai choisi de garder le silence. Ce sont les conseils de mon avocate et le fruit de l'expérience accumulée de nos luttes. Quand l'officier de police judiciaire me montre la vidéo d'un extrait tronqué de mon discours lors d'une manifestation de novembre 2024, je n'ai rien à déclarer. J'aurais tant à dire, à expliquer, à détailler. Mais ce n'est pas le moment, pas le lieu, pas le cadre. Si nous étions à égalité dans un échange sincère, peut-être pourrais-je le lui faire comprendre. Mais ce n'est pas de lui ni de moi dont il est question ici. Nous sommes les acteurs du face-à-face inégal entre un État qui souhaite anéantir la résistance anticoloniale et ce peuple parmi les peuples, en lutte contre la tyrannie et pour la libération. Je m'amuse de cette situation. Je le regarde en souriant. C'est l'expression d'un enfant de Palestine plein de confiance, empli d'une paix joyeuse et enjouée. Il note à plusieurs reprises sur le procès-verbal de l'audition, le prévenu sourit, le prévenu fait un large sourire. C'est là encore un de ces échos entre notre infime résistance et la grandeur de notre héritage. L'officier de police ignore sans doute qu'en 1957, accusée de terrorisme, la résistante algérienne Jamila Bouhired, à la sentence du juge français qui lui annonce sa condamnation à mort, a répondu par un immense éclat de rire. « Je suis un tout petit, juché sur les épaules de géants. Je ne signe pas le PV, considérant que la mention de ses sourires pourrait être prise pour un affront par le juge, un signe de cette désinvolture que les profs nous reprochaient au collège pour mieux nous punir. Il ne s'agit pas de cela, c'est infiniment plus profond. » Et peut-être indicible. Au fond, Nous savons ce qu'ils ne savent pas, nous avons ce qu'ils n'ont pas. Et nous serions heureux de tout partager si seulement ils renonçaient comme nous à vouloir prendre ce qui nous est confié, mais ne nous appartient pas. Je vais être jugé pour avoir fait l'apologie de la révolution décoloniale. Lors d'un discours sur un camion dans une manifestation en novembre 2024, j'ai parlé d'amour et de fraternité sans frontières, de notre exigence de droit et de justice. Dans cette manifestation et tant d'autres, j'ai dit que nous étions résolument les héritiers des luttes anticoloniales pour l'indépendance, de celles et ceux qui ont caché les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, résisté au nazisme et au fascisme. J'ai fait l'éloge de nos révolutions passées et à venir. En 2 années de mobilisation, j'ai parlé dans des dizaines d'événements, manifestations, conférences, débats, interviews. Je n'ai pas su consigner toutes ces phrases, ces arguments, ces faits, témoignages, analyses. Ce qui m'est reproché consiste en une phrase, détachée de tout contexte, suspendue entre les guillemets de l'accusation, entre des articles numéros XI alinéa lambda du code pénal. En effet, j'ai lancé « Est-ce qu'on est d'accord pour continuer d'être ce déluge d'Al-Aqsa, qui partout à travers le monde inonde les rues, inonde les âmes, inonde les consciences, ce déluge qui déborde, ce déluge qui amène l'eau de la vie et qui fait pousser les graines de la résistance et de la libération. » Cette phrase semble remplir les critères de ce que le ministère de la Justice français aurait à me reprocher. Pour ma part, je récuse le jugement d'un régime politique complice du génocide de mon peuple qui continue à livrer des armes et à offrir l'impunité aux criminels de guerre sionistes.
Après la lecture de cet article d'Omar El-Soumi, publié et lu sur le site d'Alain Grèche Orient 21, il me reste d'ailleurs à vous conseiller la lecture de son livre « Enfants de Gaza ». Ce livre publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Et maintenant, nous terminons notre émission avec une dernière chanson de Rima Bana, artiste palestinienne. Ciao, ciao.
In the heart of the dust where the olive trees weep, a story of courage, a promise to keep. The whispers of children, a song on the breeze, a prayer for the morning, for a moment of ease. The rubble-strewn streets, a canvas of grey, but the spirit of Palestine will not fade away. From the camps of Rafah to Jenin's strong stand, we see your resilience. We're holding your hand. We are here for Gaza, world standing tall. We are here for Palestine. We'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea, for the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza. Our voices will rise, a symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine. Till justice prevails, we will not stand apart. The headlines may flicker, the world looks away, but the truth of your struggle is brighter than day. The fisherman's prayer on a sea turned to red, the baker who shares his last portion of bread, the medic who races through alleys of fear, wiping away a terrified tear. These aren't just stories, they're letters of light, a testament to your unwavering fight. We are here for Gaza, world standing tall. We are here for Palestine. We'll answer your call. From the mountains we shout it, from the shores of the sea, for the land and its people, for the right to be free. We are here for Gaza. Our voices will rise, a symphony of hope underneath weary skies. We are here for Palestine, with every beat of our heart. Until justice prevails, we will not stand apart. They can build up their walls, they can rain down their fire, but they can't break the will or the burning desire for a home where the laughter of children can rise. We shout it from the shores of the sea.
Je le dise, je vais vous mettre mon cœur à nu. Je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors comme j'avais un copain, je crois que c'était un Américain, il m'a fait monter à l'anglaise. Le bon Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard. Je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France. Paraît qu'il faut plus en parler. Y en a que ça gêne aux entournures. Je me souviens des manucures. Je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais y a une chose que je peux vous dire. Paraît qu'on veut vous faire élire. C'est vrai sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot, de la gare du Nord, de votre photo, que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça, ils m'ont emmené. Je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pensez qu'ils voulaient me faire causer. Comme j'avais rien à leur donner, ils m'ont mis le cœur en bandoulière. Mon général, j'ai souvenance de mes prisons hors de la France. Vous étiez loin, vous ne saviez pas. On se fait à tout, même au tragique. J'ai toujours eu le sens épique, mais pas pour ces sortes de galas. Si d'aventure je viens à Paname, il faudra rien dire à votre dame. Je vous sortirai incognito. Je vous emmènerai dans mes domaines. Je vous demande pardon de vous faire de la peine. J'aurai pas la gueule d'un héros. Je me souviens du matin clair, il y avait même pas un reporter. J'en ai encore la chair de poule. C'était un hôtel si parfait que les clients n'y ressortaient jamais. Une vraie station, une vraie bourboule. Je me souviens, mais à quoi bon? C'était pour moi ma seule passion. J'aimais les chiens, Dieu me le pardonne. J'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il avait dressé comme un homme. Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait de la technique, malgré sa fin peu catholique. Vous aviez les mêmes soucis. Et puis ce qu'il faut sur cette terre, que chacun passe solitaire, vous avez le droit de rêver. Mon général, pour vos vacances, je vous raconterai l'histoire de France. Des fois que vous comprendriez.
Simone travaillait d'arrache-pied sur les quais, à qui mieux qu'il aime la prenne.
On prétend qu'elle s'appelle Simon, si Simon mon oncle n'en a plus, ne l'appellerons-nous pas Simone? On prétend que,
on m'a dit que,
tu m'as dit quoi?
Il paraît que,
si elle avait, elle serait mon oncle.
Réveillé un beau matin, ses bijoux de famille au panier
envolé.
À qui mieux qu'il aime la freine, tonton Simon, Simon oncle et Simone, pour qui l'on sait les deux sont bonnes.
Qui aime Simone? Qui mon oncle sinon Simone? Qui aime Simon? Qui ma tante sinon Simone?
Affreux de Londres où brumait mon souci, apprenti né de la lune, je voulus mettre la terre dans une charrette et l'emmener sous l'autre cieux. Et puis je me suis dit, prends ta peine, bonhomme, prends ta peine et foule-lui une trempe. Regarde-la, elle ne te ressemble déjà plus. Tamise adorée de l'ennui, Tamise tamisée aux misères lointaines, j'ai vu des bateaux d'aventure qui se déhanchaient de menture. Et je suis parti.
Encerclant sa jupe, sa main sur ta tête mal coiffée. Elle est pour toi un idéal, un réconfort, des bras ouverts. Quand le matin ça va pas fort et que t'abandonnes ton père. Comme un coquin, moi je la mate du coin de mon œil discret. Braqué sur le dos de sa jupe, les bras croisés, un peu gêné. Elle est pour moi un coquelicot, un truc qui se fume, qui rend accro. En cachette je consume, tu y goûteras une fois à dos. On l'aime, mais pas pareil, c'est mon idylle, toi ton soleil. Dans quel pétrin tu t'es fichu? Ta table de cadre, tu la sais plus. Dans quel beau drap j'ai mis mes fesses, mon fils et moi.
Comme son propre mioche, elle te protège de cette cour de jeu qu'est la vie. Cette partoche de solfège que tu ne peux pas lire seul petit. Elle te donnera toutes les clés, tous les bémols nécessaires. Chaque jour un peu plus armé et un peu moins con que ton père, j'espère.
Par le grand amour, elle est séduite. Et sa flèche dans le mille de mon cœur a ouvert. interdite un truc qui compte pas pour du beurre. Une fois mon annulaire tout nu, l'air adulte et adultère, je joue les hommes un peu perdus, mais d'être l'élu je suis fier. Pas pareil, c'est mon idylle, toi ton soleil. Dans quel pétrin tu t'es fichu? Ta table de quatre, tu la sais plus. Dans quel beau drap j'ai mis mes fesses, mon fils et moi. On a la même maîtresse.
Comme un disciple insoumis, les yeux fatigués de la veille, ta leçon au fond de ton.
Ça fait trois pas quatre. À ta maîtresse tu tiens tête. Qu'est-ce qu'elle raconte cette marâtre? Comme un amant un peu déchu, je lui fais des promesses pour demain. La main baguée sur son cul, en loose des dents un formulin. Elle est pour moi un coquelicot, un truc qui se fume qui rend accro. Une dernière taffe je consume, je te promets je la quitte bientôt. Mais pas pareil, c'est mon idylle, toi ton soleil. Dans quel pétrin tu t'es fichu? Ta table de quatre, tu la sais plus. Dans quel beau drap j'ai mis mes fesses, mon fils et moi. On a la même maîtresse. On a la même maîtresse. On a la même maîtresse.
Oh ma douce, j'entends ton rire dans mes rêves. Sur la pierre il y aura mousse, sans que ta voix en moi ne s'achève. Colline douce, douce, mais devenue arbre sans sève, je ne saurais quelle foule t'enlève. Chercher moisson là où rien ne pousse, en rêvant d'un ange qui t'offrirait une rose. Tu courais légère, loin des dangers, overdose. Tu aimais oiseau sage, vivre liberté, et tu savais. En sol d'hiver, qu'elle grince, mais Colline, oh ma douce, un jour il est venu l'ange, ses yeux brumes, sa voix brève, t'ont fasciné, douceurs étranges, et sans comprendre, j'ai vu se ternir tes aubes claires. J'ai vu sans t'entendre tes douceurs devenir colère. Tu as suivi l'ange, t'a-t-il offert une rose? Et toi, en échange, tout accepté, overdose. Tu aimais oiseau sage, liberté, mais tu es parti, oiseau ivre, poussière d'ange t'enfermer, Colline.
Thank you. je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux, athée, j'habite en bas de ton toit prétentieux. En fumeur de Havane, gros beauf qui te pavane au milieu des charniers avec tes Doberman, je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux, Pacha, mauvais Sherpa, coupeur de bites en deux, PDG des nuages, vendeur de faux voyages, dealer de poudre aux yeux, metteur de filles en cage. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux, le monde, et pourquoi pas, un gosse aurait fait mieux. Fais l'amour à l'atome, doubler la couche d'ozone, Ève, aurais-tu le droit de faire des tartes aux pommes? Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Je suis né à Cuba, quelque part en banlieue. Des bourses à Washington, ton pape et ta madone, l'univers les oublie et Satan les pardonne. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux, à mon dernier repas, appelle-moi monsieur. Pas mon fils ni machin, un père j'en ai déjà un, qui arrachait les clous quand on clouait mes poings. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue plus, toi qui vis dans les nues. Si ton plafond s'effondre, épargne un peu le monde. Mais comme moi sois sauvé, ceux qui savent leurs aves, en ce qui me concerne, je balance un pavé. Un pavé rouge et bleu, dans la vitre des dieux. Ce petit être sans clocher, une insulte pour t'approcher.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Le cabaret de l'absurde, l'émission du non-sens et de la folie, accueille aujourd'hui un nouveau givré de la chanson française qui s'est présenté à nous en ces termes. C'est bien ici l'émission des fous ? Oui, alors j'ai quelque chose pour vous. Le voici donc, Bobby Lapointe.
Au pays d'Agadaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil roi, mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agadaragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. vendre des glaces est un très bon métier. Poil aux pieds, c'est beaucoup mieux que marchand de mourons. Pas à bon marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Il préférait le crottin d'un mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi de mon côté j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom à vivre sous mon toit. Il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, bonne route, bonne route. Sur le chemin de la vie,
thank you. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est GMC+, et ce soir nous vous proposons une rediffusion particulière pour ce premier mois d'été. Il s'agit de la première émission de GMC+, celle du 14 mars 2024, qui était consacrée, comme je l'avais dit, à Bèbe le cochon, mais plus particulièrement à Camille Saint-Saëns. Voilà. Eh bien, écoutez, passez un bel été et profitez de cette rediffusion. Bye bye, à très bientôt pour d'autres aventures musicales sur GMC+. Et c'était Yves, et c'est une émission évidemment enregistrée. Bonsoir, c'est Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Alors, j'imagine que vous avez reconnu ma voix. C'est la même voix que JazzLib et c'est la même équipe avec Laurent à la technique que nous saluons. Alors, Gabriel, Maurice, Claude et les autres est une nouvelle émission que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je n'osais pas franchir le cap pour diverses raisons. Et en fait, alors Gabriel, Maurice, Claude et les autres, ou GMC+, en abréviation, vous avez l'information sur le site de la radio. J'en profite pour vous dire que vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, que vous devez télécharger le numéro le bon de souscription pour nous soutenir, que le numéro du studio c'est 01 43 71 89 40. Vous êtes sur 4... Alors oui, l'information importante, c'est que nous sommes passés en DAB+, si vous êtes équipé, que également le podcast est écoutable tout de suite après l'émission ou téléchargeable pendant un an. Et donc, vous êtes sur 80.